Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Boudelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Bienvenue, ravi de vous retrouver pour Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Et oui, Good Luxe, c'est tous les jours de la semaine. Je vous retrouve en direct et en solo dès 13h. Et quand le week-end arrive enfin, je retrouve mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin, directeur et éditorial des éditions Jaloux. Et on arrive en fin de saison, donc Emmanuel, comme moi et comme vous aussi, j'imagine, on a besoin de vacances. Alors, on va vous aider à préparer vos vacances cette semaine. La Birmanie vous fait rêver, vous avez envie de découvrir la Géorgie ou vous aimeriez emmener votre petite famille au Cambodge, par exemple. Voici quelques-unes des destinations que vont vous faire découvrir les meilleurs spécialistes du voyage sur mesure et personnalisé. Ils sont installés à Paris. Ils viennent aujourd'hui vous proposer leur plus belle destination. Continents insolites, Tselana Travel et Tapis Rouge. Mais pour l'heure, les nouveautés de la semaine.
Boudelux Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et traditionnellement, les nouveautés de la semaine, Emmanuel, on les commence avec la table de la semaine.
La table de la semaine, alors c'est une table qui existe déjà, puisque ce sont les deux tables parisiennes de Bernard Loiseau. Bernard Loiseau, on rappelle, hein, le groupe Bernard Loiseau, c'est d'abord un restaurant en Bourgogne à Saulieu qui a perdu cette année, malheureusement, sa troisième étoile Michelin. Mais Dominique Loiseau, qui est la femme de Bernard Loiseau, de feu Bernard Loiseau, a décidé de prendre le taureau par les cornes, et c'est vrai qu'elle orchestre à nouveau Saulieu en Côte d'Or, mais à Paris, ça bouge aussi. Il y a une adresse rive droite, pour l'instant, il ne touche pas trop. Par contre, la adresse rive gauche change de nom, ça s'appelle tout simplement aujourd'hui Loiseau Rive Gauche. Changement de chef, et à l'attention, Maxime Laurençon, et ce jeune chef, il a clairement les ambitions d'amener l'adresse parisienne vers les étoiles Michelin, et je pense que c'est très 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 bien parti.
Vous y croyez ?
Ah oui, véritablement. Alors le décor, on reste dans ce côté très bourguignon, très chaleureux, très boisé, un peu old school, un peu vieille France, mais délicieux. On est rue de Bourgogne, tout près de l'Assemblée nationale, c'est un petit côté sénateur avec l'automne, les gibiers et l'hiver, ça marchera très bien. Mais dès à présent, avec sa première carte printemps-été, on sent la touche très friande, très caressante, très porté sur le végétal, les escargots d'abord, on est en Bourgogne, à Bernard Loiseau, il travaille avec de l'agastache, on a un fin ragoût et légèrement, de l'agastache, c'est une petite fleur comestible, d'accord. Et puis de la menthe. C'est très funambulesque comme plat, ici ça passe formidablement bien, même travail sur le macro de ligne qui a été brûlé au chalumeau et qui va être travaillé, acidulé par la betterave et par le jus de sureau. On en voit beaucoup du jus de sureau, le sureau c'est une baie. Et puis alors, du côté des viandes, on aurait pu croire la viande bourguignonne, le charolais, pas du tout, on travaille ici une vache laitière au foin. Jusqu'ici, elle va me dire, j'ai bien dit une vache laitière, pas du bœuf. La vache laitière, c'est une vache qui avait les deux foies, qu'on va laisser maturer et qui donne une texture et un goût tout à fait unique. On est bien évidemment pas loin des quartiers de bœuf, mais c'est assez déroutant, aussi joliment travaillé justement, avec un petit côté campagne, rustique, chic, au foin, très joli travail sur les desserts, très très belle adresse, c'est maintenant qu'il faut en profiter, il n'y a pas encore trop de monde. Les députés vont partir en vacances, ça c'est mon addition.
Mais c'est ça, je vois, vous qui payez vos additions, Emmanuel, justement, quel tarif.
Attention, là on était trois. C'est l'été, je suis ruiné 500 euros. Attention, d'abord, c'est mes terres fétiches de la Bourgogne, Volnay de chez Rouxelles 2010. À trois, on a chacun cassé la tirelire, c'est ça qui a fait grimper. Autrement, on s'en tire très sincèrement pour une très très belle table aux alentours des 80 euros. Avec un menu déjeuner à moins de 40.
À vous entendre, bientôt il y aura une étoile, donc c'est vraiment maintenant qu'il faut y aller. Ça s'appelle l'oiseau rive gauche. Allez, ça y est, ça commence à sentir l'été, à force de le dire, on va y arriver. Vous vous souvenez, on avait parlé du Off Paris Seine. Le nom n'est pas terrible. Enfin bref, c'est le premier hôtel sur la Seine à Paris. La première barge hôtel. Ce n'est pas véritablement un bateau. Hein. C'est une barge. D'ailleurs, pour le construire, ça a été assez étonnant. Les chambres ont été construites d'un côté. Ils ont amené tout ça en termes techniques. C'est une vraie prouesse parce que vous avez donc ces 58 chambres, ces 4 suites. Alors, vous avez vu sur la Seine ou vu... On n'est pas là, on est au fond d'Austerlitz ou vu sur les quais. Les suites, elles sont devant. Donc là, vous avez les deux vues. Ça, c'est assez classe. Et vous avez aussi le petit bar avec restauration entre 17h et 1h du matin. Vous avez bien sûr bassin et marina. C'est-à-dire que vous avez vraiment l'eau à fleur d'eau. C'est vraiment ça l'idée. Donc c'est assez réussi. Et à partir de septembre, il y aura en plus des petites balades en bateau. Donc pour bouger un peu, à partir de 160 euros la nuit. Mais ils ont tout fait pour que vous sentiez vraiment...
C'est vraiment les chambres avec vue sur la Seine, cette fois-ci.
Et la barge bougeait, donc vous êtes sur les flots. Il faut aller tester, on n'y a pas encore dormi, mais sincèrement, il y a de toute façon la terrasse à quai. À mon avis, allez tester le bar, au moins, pour voir ce Off Paris Seine. C'est tout récent, ça a ouvert jeudi, là.
Hallucinant, les quais de Seine, hein. comment ouais. elle se réaménage. C'était les parents pauvres de l'architecture et de la vie parisienne, ces fameux quais de Seine. Aujourd'hui, on le voit depuis le pont Alexandre III avec tous ces restaurants, Rosa Bonheur, Le Flot, jusqu'au pont Austerlitz avec cet hôtel. Ça commence enfin, les quais de Seine parisiennes renouent avec la ville. On fera peut-être une émission en l'automne, tranquille, lorsque les touristes seront partis. On sera entre parisiens.
Ouais, et puis sinon, on va en parler à notre spécialiste du web, Sandy Prenois, qui devient une experte de la Seine. Allez, web de luxe!
Goût de luxe Paris, l'édition du week-end, web de luxe.
Parce que toutes les semaines, elle nous fait des scènes. Oh non, elle
est facile.
Non, parce que vous brûlez les planches.
Vous brûlez les planches. Sandy Prenois.
Merci Karine, bonjour.
La semaine dernière.
Vous aussi, alors, vous m'avez manqué.
Qu'est-ce qui s'est passé en attendant sur le web?
Pas mal de choses du coup et du retard. D'abord, cette vidéo avec le Ritz. Hein, on en avait parlé il y a deux semaines. Ritz qui propose, avant d'y aller en vrai, de découvrir cette vidéo qui s'appelle Behind the Door, imaginée par l'agence Peter Franklin, réalisée par Zoé Cassavet, avec entre autres Anna Girardot. C'est un très joli film, on en voit les images voilà derrière moi, joli film un peu entre le contemporain, personnage très moderne mais aussi très féerique, ils courent, jouent au chat et à la souris avec leurs clés dorées magiques, ouvrent des portes, on se laisse transporter, c'est voilà à voir, c'est une campagne 100% digitale qui a été diffusée sur les réseaux sociaux du Ritz, voilà, ça s'appelle Behind the Door.
C'est un véritable court-métrage, on voit pas encore grand-chose du Ritz, mais voilà, ils ont bien travaillé la communication et c'est comme ça qu'on fait monter le désir.
Ah ben, évidemment. Et un film avec je ne sais combien de personnages techniques. Ça prend une minute dans le générique tellement il y a de gens qui ont travaillé sur ce film. C'est un vrai produit.
S'il y a au moins autant de monde qu'au Ritz, parce que c'est une vraie ruche. C'est impressionnant. Oui. Je ne dis rien. J'ai pu tester le restaurant. J'en parlerai bientôt. C'est du très, très haut niveau.
Ouais, très haut niveau.
En tout cas, ce film, il est à voir sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux du Ritz, ouais.
Du Ritz. Allez, vente privée.
Vente privée, donc leader, vous le savez, français, de vente événementielle, de vente voilà tout ça qui lance sa première campagne en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni. La campagne s'appelle À la française et là c'est super rigolo parce qu'en fait ils ont fait un petit site de vidéo interactif, on entre dessus, en fait c'est une petite française en béret avec sa marinière qui nous accueille et on va pouvoir la mettre en scène en indiquant des actions qu'elle doit faire, alors par exemple embrasser, manger, conduire. On est dans, à chaque fois on débloque une petite vidéo sur des clichés français.
C'est ça, elle mange du camembert.
Elle mange du camembert ou alors elle attaque une grenouille encore vivante, on ne sait pas si elle va y passer.
Elle embrasse comment?
Elle embrasse en French kiss, évidemment.
D'accord.
Elle conduit avec une dodoche, enfin, il y a plein de choses comme ça. Et évidemment, à la fin de la vidéo, de chaque vidéo déclenchée, eh bien, l'internaute est invité à découvrir le shopping à la française. Ça, c'est sur vente-privé.com/à la française.
On rappelle que les soldes viennent de commencer.
Allez, vite,
shopping dans les starting blocks. Allez, et pour finir, un petit mot sur une Instagrammeuse à suivre.
Oui. Alors elle s'appelle Alix Cherry, son surnom aussi c'est The Cherry Blossom Girl, la fille de fleurs de cerisier. Les confrères en parlent comme une marque déposée du luxe. On la suit parce que quoi? Parce qu'elle nous fait découvrir des lieux dans des festivals, dans des événements X ou Y. Elle nous présente son enfant, oui, parce qu'elle est maman et son enfant porte des grandes marques de luxe et ça donne super envie. Elle aussi,
oh,
elle
je
porte.
Je sais pas ça. Pas certain
si,
moi. Hein.
Si, elle porte elle aussi de jolies choses, marque de créateur. Grand luxe, etc. Bref, très suivi sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux. On voulait parler des réseaux sociaux, on le
vous
fait.
Vous avez
voilà.
bien fait. Brûleuse des planches.
Très tapis rouge et très luxe, effectivement.
Oui, mais là, j'ai choisi quand elle était à Cannes. Mais il y a des choses plus. Voilà.
Ouais, mais le luxe se loge un petit peu partout. Merci beaucoup,
merci
Sandy
Prenois.
On vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Allez, Emmanuel, vous êtes mis au sport donc.
Très rapidement, nouvelle boutique, un concept store qui s'appelle le 106 Sports Club, installé au 106 boulevard Saint-Germain. Concept store de luxe dédié au sport. Alors, à pas tous les sports, exactement 4 sports, le foot, le handball, le rugby et le training. 4 univers qui sont bien départis à l'intérieur de cette boutique et surtout, alors d'abord, des vendeurs conseils qui savent de quoi ils parlent, sont tous des sportifs aguerris, des espaces dédiés à chaque sport, plein de petits clins d'œil et parfois mieux que des clins d'œil. Le clin d'œil, c'est par exemple la cabine d'essayage qui va reprendre les codes du vestiaire masculin, mais le vestiaire haut de gamme. Et puis notamment sur les
avec
chaussures. Moi, l'odeur. Enfin, je ne sais pas. J'ai pas pratiqué. J'étais parmi les premiers. Focus sur les chaussures. Pourquoi? Parce que tous les modèles présentés sont présentés en fonction des terrains pratiquer ou qu'on va pratiquer des postes occupés. C'est-à-dire que, selon que vous soyez rugby pilier ou autre, c'est pas tout à fait la même chose. Si vous travaillez sur un terrain, si vous jouez au foot sur un terrain synthétique, sur un terrain plutôt gras, vous pouvez choisir votre modèle, ajuster vos crampons. Et puis, également, pour les fans de football, la gamme textile de près de 50 grands clubs à travers le monde et de 20 fédérations.
On évitera les maillots suisses.
Ah oui, en ce moment, il y a des petits problèmes. Il paraît que c'était un défaut de fabrication.
Mais bien sûr,
Puma doit revoir sa copie.
C'est ce que vous expliquez,
hein.
Puma. Mais
ouais,
en tout cas,
c'est comme on peut.
Le 106 Sports Club, donc c'est boulevard Saint-Germain. Allez, on termine, puisque vous mettez au sport. Je continue à être gourmande avec cette nouvelle marque qui s'appelle Confiture Parisienne. Je vous en ai amené trois petits pots. C'est deux jeunes femmes, Nadège et Laura, qui ont créé ça. C'est fabriqué à Savigny-sur-Orge, donc en banlieue parisienne, avec des bons produits locaux. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'est pas sur des pots transparents. D'habitude, la confiture, c'est totalement transparent. Là, non, des pots blancs. Et surtout, elles viennent de sortir. Ça va vous plaire.
J'ai vu tout de suite.
La gelée de nuit Saint-Georges, domaine du château de Prémaux. On sait exactement d'où ça vient. Donc voilà, des petites propositions assez original, c'est en vente sur leur e-shop, confiture-parisienne.com au singulier, et puis dans toutes les bonnes épiceries, Colette, la grande épicerie, etc., etc. La prochaine, Mirabelle de Lorraine au safran. Ça peut être pas mal, ça aussi.
Ça
et avant la fin
ça.
De l'année 2016, justement, elles auront leur propre boutique à Paris. Ça s'appelle La Confiture Parisienne. Voilà, châtaignier poire aussi. Celle-là, je pense qu'on va se la tester tout de suite. Allez, en attendant, c'est les vacances. Donc, on va peut-être éviter les gourmandises pour aller se balader en maillot de bain. Les plus belles destinations du moment avec les spécialistes du voyage sur mesure, c'est tout de suite.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goodlux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et Goodlux vous aide à préparer vos vacances aujourd'hui. Et oui, ça commence à se rapprocher. Et puis si vous préparez pas celle de cet été, parce qu'on s'y prend un petit peu tard, vous préparez celle d'après. En tout cas, on va vous faire rêver aujourd'hui avec les grands spécialistes du voyage sur mesure que vous pouvez aller rencontrer dans la capitale. Nous sommes en compagnie de Marie-Louise Moineau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice et dirigeante de Tselana Travel, créée en 2003 avec Aimé Bonnecker. Bonjour.
Bonjour.
Directrice de la production du marketing chez Tapis Rouge. Vous êtes également travel designer. C'est comme ça qu'on appelle les gens qui prépare nos voyages et qui imagine nos voyages. Tapis Rouge, ça date de 1981 déjà. Et puis en compagnie de Joël Massé, bonjour.
Bonjour.
Office manager et travel designer, également chez Continents Insolites. Alors vous êtes le plus ancien, pardonnez-moi, avec tout le respect que je vous dois. Ça date de 1976-2000, c'est ça pour l'agence parisienne, donc depuis plus de 30 ans spécialisé du voyage haut de gamme et sur mesure.
Vous étiez pas née fière de 76.
Si.
C'est bien. Elle a une femme qui s'assume.
Alors on leur a demandé à chacun voilà, de nous préparer. Tout ça, c'est du sur-mesure, de la personnalisation. Donc, normalement, ils ne vous préparent rien. Vous arrivez chez eux, chez les uns et chez les autres, avec vos envies, vos désirs. Et ensemble, vous construisez vos voyages. Sauf qu'aujourd'hui, on leur a dit, bah, pour Goodlux, quand même, essayez de nous imaginer des choses qui nous font rêver. Alors, on va commencer avec vous. On va partir en Islande. Tiens, c'est vrai que le Grand Nord, le froid, ça attire de plus en plus. L'Islande, alors pourquoi l'Islande, Joël ?
Alors, moi, l'Islande, c'est une destination que j'adore parce que, en fait, on est à 3h30 en avion de Paris et, en fait, on est déjà sur la Lune.
Ah, oui.
C'est une destination où, quand on arrive, on a vraiment l'impression d'être sur une autre planète qui a de plus en plus de succès. Mais il suffit de rouler quelques dizaines de kilomètres à peine et on se perd dans des endroits où vraiment il n'y a plus personne. Et c'est une destination qui est vraiment passionnante d'un point de vue nature. On a des paysages absolument extraordinaires. Alors, évidemment, il faut aimer les choses un petit peu âpres.
Hein. C'est rude, hein.
Énormément de végétation. On rencontre pas beaucoup de monde non plus parce que
le fameux geyser, c'est pas une légende.
Voilà, non, c'est pas une légende. Effectivement, d'ailleurs, le nom geyser vient du mot geyser, qui est le nom du geyser qui jaillit dans cette région du Cercle d'Or, donc qui est un petit peu au nord-est de Reykjavik. Et c'est vrai que c'est une destination qui est très très belle parce qu'elle se prête à des tas de voyages. On peut à la limite y aller peu de temps puisqu'on n'est pas très loin. On peut voyager sur 7-8 jours. Et puis, si on veut faire le grand tour de l'île, alors là, on peut passer 15 jours, voire 3 semaines sur un voyage complet.
Et vous avez parlé de la capitale Reykjavik. Il y a quelques années, il y a 10 ans, c'est une petite ville qui faisait beaucoup parler d'elle parce qu'il y avait une scène artistique et notamment musicale assez dynamique et aussi les nocturnes de Reykjavik étaient assez célèbres. C'est toujours vrai ou finalement on reste dans une petite ville nordique planquée
Non, Reykjavik c'est une capitale qui est très sympa. Alors justement parce que c'est une capitale qui est quand même 6 mois par an un petit peu plongée dans l'obscurité. Hein. Il y a quand même la nuit polaire et du coup
c'est pour ça que la nuit ça
les habitants sont très dynamiques. Il y a effectivement un nouvel opéra, l'opéra Harpa qui a été construit il y a pas longtemps, donc une très belle salle de concert. Il y a aussi une littérature politique policière qui est très très riche sur l'Islande. Et donc voilà, il y a une vie culturelle qui est très très sympa. Et c'est vrai que ça vaut le coup, quand on arrive en Islande, au moins de prendre la voiture, de ne pas partir directement à l'intérieur du pays, mais de rester 2-3 jours à Reykjavik, qui est une ville très très agréable.
Donc c'est la question que j'allais vous poser pour terminer sur cette destination. Je vais m'assurer, c'est en voiture qu'on la découvre le mieux, c'est
obligatoire. Voilà, c'est ce qu'on appelle nous une formule autotour. Donc en fait, on met les voyageurs au volant d'un véhicule. Par contre, ils ont un roadbook qui est en français, qui est très détaillé. Donc ils ont toutes les indications pour pas se perdre. Et puis franchement, il n'y a pas énormément de routes en Islande non plus, donc le risque est quand même assez limité. Voilà. Et puis c'est ce qu'il faut en fait en Islande, c'est se perdre. Il faut
et lorsqu'on se perd comme ça dans la campagne, dans les paysages islandais, est-ce que l'hébergement est un hébergement qui va suivre, ou est-ce qu'il faut accepter aussi de jouer un petit peu le codeleur local, la version originale?
Alors là-dessus, l'Islande a beaucoup évolué. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, on était quand même sur des choses très rustiques et où l'accueil était un petit peu froid, compte tenu de l'engouement touristique qu'il y a pour ce pays. Aujourd'hui, on arrive à trouver du charme. Il y a de très belles adresses. Je pense à des hôtels comme le Yon, qui est très futuriste, qui est pas très loin de Reykjavik, ou des hôtels comme le Ranga, qui a un côté un peu parc de l'Ouest américain, tout en bois. Donc non, l'Islande a fait beaucoup de progrès là-dessus, et il y a vraiment maintenant de beaux hébergements, comme on les aime, effectivement, qui marient le charme, le confort, et puis toujours des situations incroyables. Et on peut d'ailleurs les essayer également l'hiver, parce que c'est des endroits rêvés pour observer les aurores boréales et la
fameuse aurore céleste. Boréale.
Donc voilà, c'est une destination qui se vit et qui se visite toute l'année.
L'Islande, donc, avec Continents Insolites. On continue justement dans le grand froid autour de la mer. On va prendre le bateau plutôt avec vous, Aimé Bonnecker. Les croisières, en général, vous aimez bien ça chez Tapis Rouge. Et alors, carrément, vous nous proposez un safari blanc, c'est-à-dire.
Alors, en fait, oui, effectivement, Tapis Rouge est connu pour ses spécialités et pour ses accords, ses partenariats avec les grandes compagnies de croisières de luxe. Donc, nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est des croisières un peu extrêmes. Et notamment les croisières dans l'épaule avec ce qu'on appelle nous le safari blanc. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un 4x4 avec un tracker dans la brousse africaine, on est sur un Zodiac. Avec un
bateau, sur un Zodiac.
Sur un Zodiac. Alors évidemment, le Zodiac, il part d'un bateau extrêmement luxueux et confortable sur lequel on profite d'une gastronomie à la française, de tout un confort exceptionnel. Mais on part en expédition sur des Zodiacs pour essayer d'apercevoir, avec les naturalistes qui sont à bord des Zodiacs, un ours polaire, des phoques, des baleines, parfois la chance de voir un narval, des animaux vraiment qu'on ne peut observer que dans ces contrées.
Mais il y a une saison,
voilà, justement. C'est la question.
Alors,
que j'allais poser.
Pour aller en Arctique, la bonne saison, c'est maintenant.
Ah ben bah voilà.
Donc c'est maintenant.
Et là, il n'est pas trop tard, on peut encore...
Alors, il reste quelques cabines
sur certaines
places. Il reste quelques cabines sur certains bateaux. C'est vrai que ça commence à être un peu plus tard, mais ça peut s'organiser pour aller justement en Antarctique, où là, il faut y aller quand c'est notre hiver à nous.
Et c'est combien de temps, du coup, quand vous faites croisière comme celle-ci?
Ce sont des croisières qui peuvent durer une semaine, le minimum. Déjà, on peut faire le tour du Spitzberg, par exemple, en une semaine. On peut
Spitzberg, aussi, c'est au nord de la Norvège.
Voilà. Donc, on peut aussi faire des croisières beaucoup plus longues. Mais c'est vrai que nous, notre savoir-faire, c'est de prolonger les croisières. Alors là, on parle du Grand Nord, mais toutes les croisières qui se font avec nous, on peut organiser l'avant et la pré-croisière. C'est tout l'intérêt, effectivement. Quand on traverse le monde pour faire une croisière d'une semaine, on a envie aussi, une fois sur place, de découvrir autre chose sur Terre. Et c'est vraiment là qu'on peut...
Et on remonte très haut.
On remonte très haut, on a très froid, on est bien équipé.
Et il n'y a pas de risque de se retrouver bloqué par les glaces. Parce que tous les chasseurs de poules qui étaient pour la plupart des grands Scandinaves, notamment des Norvégiens, il y a plus d'une histoire qui raconte que leur bateau, à un moment donné, se trouvait repris par les glaces, ils ne pouvaient plus rentrer, il fallait attendre le dégel. Alors, vous me direz, aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, ça va peut-être un peu plus vite, mais bon.
Ces croisières se font sur des bateaux qui sont équipés pour... Alors, ce ne sont pas des brise-glaces. On fait aussi des expéditions sur des brise-glaces. Alors là, le confort... C'est un vrai luxe. Mais c'est différent comme produit. Mais ce sont des bateaux qui sont équipés pour aller dans la glace, justement.
Ah, donc, voilà. Ça me plaît.
Et les Zodiacs, avec les Zodiacs, on peut aussi descendre à terre, marcher sur les glaciers. C'est un paysage tout à fait étonnant, comme on en parlait pour aussi l'Islande. C'est des paysages
qui sont plus dans l'aventure.
On est vraiment dans l'aventure, dans le froid, on est équipé et on voit des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs. Les icebergs, c'est vraiment le safari blanc, tout est blanc, où
Et ben voilà.
Le bleu intense, c'est très.
Il
très
reste étonnant. Quelques places, hein, on vous l'a dit, avec tapis rouge si ça vous tente. Allez, on continue notre balade. Avec, c'est aussi l'occasion de découvrir des destinations qu'on connaît mal ou auxquelles on n'a pas pensé. Alors la Géorgie, par exemple, je dois vous avouer, Marie-Louise Moineau, qu'il va falloir nous convaincre. Non, mais c'est vrai que c'est étonnant. Et en même temps, on a envie de découvrir ces contrées-là.
Mais ça a été une découverte pour moi aussi. En fait, c'était vraiment l'opportunité qui a fait un petit peu le larron. J'aurais pas pensé comme ça à aller en Géorgie passer 10 jours. Et puis, bon, ça s'est fait. Et là, ça a été une vraie découverte et un vrai coup de cœur humain, parce que j'ai assez rarement rencontré de chaleur humaine profonde autant que là-bas.
Et tu sais, c'est vraiment voyager en tant que designer.
Ça me rappelle un petit peu la Syrie il y a 30 ans, en fait, où c'est vraiment la porte ouverte. Les personnes ne se posent absolument aucune question. On discute. Et pourtant, il y a un barrage de la langue qui est réel.
On forcément. Rappelle juste la Géorgie, on la resitue peut-être sur la carte, parce que tout le monde, c'est dans l'Empire, l'ancien empire soviétique,
absolument, entre l'Azerbaïdjan, la Russie. Et du coup, même géopolitiquement, quand on traverse certaines zones et qu'on a toutes ces frontières en face de nous, c'est assez spectaculaire. Alors après, il y a les paysages aussi. Pour les personnes qui sont intéressées par l'archéologie, c'est absolument magique. Il y a un nombre de sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO qui est incroyable. C'était vraiment un condensé d'émotions, mais à tout instant. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire en 4x4. Donc on atteint en plus des zones absolument magnifique, il n'y a personne, c'est juste du bonheur.
C'est quand c'est vert, c'est des
c'est très vert. C'est très vert, oui. C'est très montagneux, c'est très vert, il peut faire froid à certains endroits. La côte n'est pas la plus belle, parce qu'ils ont quand même aussi la mer Noire. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant.
Il faut s'enfoncer dans les terres.
Il faut s'enfoncer dans les terres, dans les reliefs, et vous atteignez des monastères absolument exceptionnels. Il y a une très profonde aussi, et c'est assez bizarre pour un ex-empire soviétique, ils sont mystiques.
Ah ouais.
Donc c'est.
Je sais pas si c'est bizarre, vous savez.
Non mais c'est vrai qu'on s'attend, pas forcément.
Vous parliez de sites archéologiques. Quelles sont les civilisations qui ont précédé ou qui sont passées? D'abord des sites byzantins.
Byzantines essentiellement. Donc il y a énormément de choses à voir.
Marie-Louise Moineau, juste une question, on parlait d'hébergement tout à l'heure.
Là aussi, excellente surprise. Alors ça ne va pas être du 5 étoiles palace luxueux, mais vous avez des boutiques hôtels comme celui qui passe juste derrière.
Pour ceux on qui arrive là-dedans.
Et on se dit, c'est incroyable, le bâtiment est affreux, puisque c'est un ancien bâtiment soviétique,
qu'ils ont
rénové à l'extérieur. Et puis on arrive dedans et voilà, c'est plein de charme, on a envie de se poser, on a envie de rester, la vue est magnifique.
Mais là encore, vous verrez que l'architecture soviétique, d'ailleurs beaucoup aujourd'hui la plébiscite, elle commence à prendre sa patine, son
elle
côté très structuraliste. Bon, j'étais là. Dernière chose, quand on parle comme ça dans ces contrées, alors vous allez venir chaud-mubilé par la gastronomie parce que
c'est un bon métier,
mais est-ce qu'il y a aussi un choc? Parce que le premier instant du voyage, c'est parfois de se nourrir. D'ailleurs, tous les grands explorateurs, grands aventuriers, c'est souvent ce qu'ils racontent. Il fallait bien becter. Est-ce qu'il y a une gastronomie? Ou est-ce qu'il y a des plats, ou est-ce qu'il y a des saveurs qui nous bousculent aussi en Géorgie?
Alors, on en avait beaucoup parlé.
C'est une légende. Ok. C'est... Je vais d'abord aller chasser le narval.
Pas par la gastronomie. Non, j'ai trouvé ça un petit peu lourd. Alors, à part deux ou trois endroits où effectivement, il y a les restaurants, on a bien mangé. Généralement, globalement, c'est assez.
C'est du rustique flamboyant.
Voilà.
Bah, en plus, on fait un régime en allant en Géorgie. C'est magique.
Quelle est la Géorgie?
Tbilissi.
Oui, Tbilissi. Eh ben, on a déjà fait une moitié de tour du monde
déjà
avec vous, et c'est déjà la pause. Et c'est ça le problème.
On est plutôt hémisphère nord,
Hémisphère nord. On va peut-être partir un peu plus.
Faire descendre, messieurs, dames.
Un peu plus au sud. Et on va poursuivre notre voyage autour du monde avec vous. On se retrouve tout de suite sur BFM Business.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Mots de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et cette semaine, nous vous offrons des vacances de vous et de luxe. En fait, c'est pas vraiment nous, ce sont les travel designers qui sont avec nous. Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Louise Moineau, c'est de Célana Travel, d'Aimé Bonnecker, c'est Tapis Rouge, et donc de Joël Massé de Continents Insolites. Vous nous avez emmenés en Islande tout à l'heure, on va descendre beaucoup plus au sud avec vous. Joël, les gorilles en Ouganda, c'est vraiment accessible à tout le monde ça?
Alors oui, c'est accessible à tout le monde. C'est évidemment une passion personnelle aussi que j'ai pour les grands singes. Ça s'invente pas. Mais c'est vrai que pour quiconque a un intérêt pour l'observation animalière, l'expérience de l'observation et de la rencontre avec les gorilles de montagne, c'est un moment qui est unique, qui est fabuleux, parce que c'est très troublant de voir à quelques mètres seulement à quel point ces primates-là sont à 97% aussi proches de notre ADN. Et il y a beaucoup d'humanité dans les gorilles.
Alors avant d'aller se confronter à ces gorilles, on part de Paris ou quand on part de France, oui. Direction l'Ouganda.
Oui.
Combien d'heures de vol et on atterrit où? Et après, comment on passe?
Une douzaine d'heures de vol à peu près pour arriver jusqu'à Entebbe. Et là, c'est pas gagné encore parce qu'il faut encore une bonne journée de route.
C'est pour ça que je m'en doutais.
Voire deux, parce qu'en fait, le parc et la réserve, la forêt où, en fait, aujourd'hui, survivent quasiment la moitié des gorilles de montagne du monde, parce qu'ils sont tous centralisés sur cette région qui est frontalière entre l'Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Donc, c'est la forêt de Bwindi. Et dans cette forêt de Bwindi vivent environ 500 à 600 gorilles de montagne. Et donc, effectivement, il faut une à deux journées depuis Entebbe où on arrive en avion. Pour arriver jusqu'à Bwindi. Et de là, effectivement, c'est pas encore gagné. Parce que aller voir les gorilles dans leur milieu naturel, c'est quand même au prix d'un trek, hein, d'une marche qui peut durer parfois très peu. Et parfois, je vais même vous dire, les gorilles descendent jusque dans les hébergements, dans les des hôtels qui sont en fait dans le parc. Hein, c'est le cas notamment d'un hôtel qui s'appelle le Gorilla Forest Camp.
Donc, on n'a même pas besoin de trekker.
Où là, effectivement, les gorilles passent directement dans se baladent dans les jardins du parc. Sinon, effectivement, c'est un trek et une marche qui va durer de 2 heures à 3, 4 heures, parfois 5 heures. Parce que les gorilles, eux, sont évidemment en totale liberté, ils ne vous attendent pas. Donc il faut les suivre et les trouver.
Alors justement, j'imagine qu'on est encadré, qu'on a des guides. C'est qui ces guides? C'est oui. des autochtones qui connaissent bien le relief, la géographie, ou est-ce qu'il y a aussi des scientifiques qui vont vous expliquer un petit peu quelles sont les mœurs, les us et les coutumes des grands gorilles?
Le protocole d'observation, effectivement, est très encadré. Hein, et c'est tant mieux parce qu'effectivement, pour la préservation des primates, en fait, vous partez par petits groupes de 8 personnes maximum. Et donc en fait, ce groupe de 8 personnes est encadré par un guide. Au départ donc du bureau du parc, et en fait déjà depuis l'aube les trackers sont sur place et ont déjà repéré où était le groupe de gorilles, et donc en fait le guide et le tracker sont en permanence en contact radio, et c'est donc le tracker qui va conduire et amener donc le guide avec le groupe de 8 personnes jusqu'au contact avec le groupe de gorilles. Et là une fois qu'on a atteint à quelques dizaines de mètres le groupe de gorilles, tous les voyageurs se délestent de tout ce qu'ils ont comme nourriture, comme effet personnel encombrant, et ensuite voilà, on se place à quelques mètres seulement. Alors il y a une distance minimum de 7 mètres à ne pas dépasser, mais parfois c'est les gorilles qui la dépassent eux-mêmes, parce que c'est parfois les gorilles qui sont curieux, les petits parfois s'approchent, vous tapotent sur le sac, et c'est là où effectivement pendant une heure, puisque effectivement le timing est aussi très serré, vous vivez quelque chose d'absolument extraordinaire.
Vous l'avez vécu personnellement?
Je l'ai vécu, alors j'ai la chance d'avoir vécu 3 ou 4 fois, à la fois au Rwanda et en Ouganda, et à chaque fois c'est un moment qui tire les larmes aux yeux, parce qu'on est vraiment face à son cousin.
Son cousin, et en même temps, ce mystère qu'est le gorille, parce que notre fantasme, notre mythologie, c'est de se dire qu'il est certainement, hormis King Kong, le plus gentil. C'est vrai, on se dit qu'il est violent ou en tout cas agressif. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Si on respecte bien évidemment le protocole.
Non, ce qui est effectivement extraordinaire, c'est cette placidité qu'ils ont. Alors en même temps, on mesure bien toute l'organisation sociale du groupe. Vous avez le mâle dominant qui, effectivement, qu'on évite de regarder dans les yeux et qui veille
au. C'est déjà dit, Karine, ça, t'es pas trop cher.
C'est votre catégorie.
À la sécurité du groupe. Et puis vous avez les femelles, et puis bon, d'autres mâles plus jeunes, et puis les petits. Et voilà, et c'est des groupes qui sont de 5, 10, parfois 30 ou 40 individus, et dont on va observer le comportement pendant une heure. Et après, au bout d'une heure, effectivement, le guide vous dit, voilà, maintenant, on éteint les appareils photo et on rentre. Et c'est vraiment à ce prix-là, de respect de l'animal, que vraiment ces projets de conservation tournent et pour moi, sont effectivement tout à fait profitables aux gorilles.
Allez, toute dernière question, donc on part combien de temps pour tout ça?
Il faut compter au moins une dizaine de jours, parce qu'effectivement, on ne va pas à Ouganda juste pour aller voir les gorilles, il faut effectivement faire une boucle. Et puis, c'est vrai que l'Ouganda a ceci de merveilleux, qu'il y a les gorilles de montagne, il y a les chimpanzés aussi pour les amateurs de primates, mais c'est aussi la végétation et puis les grands fauves. Enfin, on trouve les Big Five en Ouganda, donc c'est une très belle destination, safari en général et primates en particulier.
Et ben voilà, avec Continents Insolites qui va vous faire rencontrer les grands. Et puis on continue sur le reste du continent africain. je me tourne vers vous, Marie-Louise Moineau. Tselana Travel, vous, celui qui vous fait vibrer, le pays qui vous fait vibrer, et plus exactement une région très précise, c'est au Botswana.
Oui, d'abord, c'est un pays qui m'est très cher. Le nom d'ailleurs de Tselana Travel, c'est un nom Tswana, du Botswana, qui veut dire la piste, et qu'on a choisi délibérément quand on a monté la société, et on l'a gardé. Et c'est vrai que j'y retourne avec une régularité de métronome, parce que j'adore ce pays-là. Mais indépendamment du safari traditionnel dans le Delta, dans l'Inyanti, etc., etc.
On rappelle aussi Botswana, plutôt au sud de l'Afrique, Afrique australe.
Juste au nord de l'Afrique du Sud.
D'accord.
Frontière Afrique du Sud, Zimbabwe, Zambie et Namibie.
Parfait.
Et il y a une zone, en fait, et quand on veut vraiment bien comprendre le pays, il faut vraiment y aller. Il faut aller dans le Kalahari, il faut aller dans les Mahadi-Hadipan. Et là, on trouve des paysages désertiques, un peu plus classiques comme ceux du Kalahari. Mais dans les Pan, on se met vraiment sur un paysage lunaire, complètement. Et c'est juste. Entre la puissance du silence, quand on est allongé sur ce lac salé, desséché, dormir à la belle étoile avec juste les étoiles au-dessus de la tête, et puis... Rien, pas un bruit, pas un chat. C'est vraiment à voir.
Mais finalement, comme dans tout désert.
Non, c'est différent.
Pourquoi ?
C'est différent. J'arriverai même pas à expliquer pourquoi.
Il y a des hommes là-bas aussi.
Il y a des hommes, assez peu au demeurant. Il y en a quelques-uns, mais il y en a tellement peu en fait que ceux que vous voyez même sur les photos, ce sont des personnes qui vivent à proximité, mais dont les villages d'origine sont beaucoup plus au nord. Mmh. Pas forcément de cette zone-là, en fait. Mais là aussi, la rencontre avec eux est assez intéressante. Faut pas la prendre. Et c'est souvent quelque chose que les clients me disent. Mais les aborder, on est un peu voyeur. Comment on va faire ? Je dis, il faut surtout le prendre le plus naturellement possible.
Rester soi-même.
Rester soi-même, parce qu'au final, pour eux, c'est exactement la même chose. C'est nous qui sommes les. Ils nous regardent. Ça n'a aucune importance.
Pour gagner ces déserts salés, on les gagne comment justement ? Il faut là aussi trekker, on les gagne par quel moyen de locomotion ? Combien de temps ça prend pour que ça se mérite, j'imagine ?
C'est à peu près à une heure d'avion-taxi de l'aéroport de Mone, donc qui est la base de tout safari au Botswana. Et après, c'est du 4x4, du quad, de la marche à pied.
Et on dort vraiment à la belle étoile.
On peut le faire et c'est juste.
Parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme alternative ?
Il y a des lodges de luxe.
Il y a des lodges. Toute cette Afrique australe, c'est quand même le grand pays, la grande lodge des lodges.
Et oui, la nuitée à la belle étoile, on peut le faire effectivement, pas en toute saison, parce qu'en saison des pluies, ils ne prendront pas le risque, mais c'est vraiment une expérience.
Ah bah, de toute façon, c'est ce qu'il y a de plus beau. Hein.
Ça, on sait que vous êtes demoiselle Mono.
Alors, continent asiatique, on n'y est pas encore allé. La Birmanie, depuis qu'elle a ouvert ses portes, finalement, même Bonnecker, on sent, j'ai envie de dire, c'est une destination de tendance, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est quand on vit enfin et on peut la découvrir.
En fait, exactement. C'est-à-dire que moi, c'est une destination que je connais bien, que j'ai découverte il y a longtemps. J'y suis retournée plusieurs fois depuis et j'ai vu les changements. Et c'est vrai que j'ai envie de proposer aux gens d'y aller maintenant, parce qu'effectivement, même si c'est une aubaine pour le pays, ces changements, il est évident que le pays va perdre en authenticité dans les années à venir. Et aujourd'hui, en Birmanie, même si on y va, et même s'il y a du monde sur les sites importants que sont Bagan, Mandalay, Rangoon, on peut encore explorer des endroits éloignés où on ne trouve personne. Alors, moi, j'ai toujours tendance à inciter les gens à se dire, on va aller dans les plus beaux hôtels pour les plus belles étapes. Et à côté de ça... Il faut que vous soyez prêts, peut-être une nuit, deux nuits, à dormir dans une auberge à la Birmane.
C'est ça qui est
pas
formidable.
Forcément confortable. Mais là, vous allez vraiment rencontrer la population locale.
Toucher du doigt la civilisation. Quoi.
Et vous allez être seul au bout. Il y a des endroits, notamment sur le lac Inlay, où on peut être absolument seul. Traverser le lac en barque et ne croiser que des pêcheurs. Ne pas croiser d'autres bateaux avec des étrangers dedans. Et là, justement, passer du temps avec son guide et rencontrer la population locale. Parce qu'en Birmanie, passer à côté de la population, c'est vraiment un peu passer à côté du voyage. Parce que les Birmans sont des gens extrêmement intéressants. Ils sont vraiment des gens délicieux et très généreux.
Un peu à la manière des Géorgiens tout à l'heure. Marie-Louise disait, non mais c'était la culture de la porte ouverte. Parce que quand on dit que les peuples sont délicieux, il y a des qualités de délice. C'est aussi de la même façon, ou est-ce qu'ils s'appréhendent de manière plus à distance? Est-ce qu'il faut plus de temps? Est-ce qu'ils sont plus discrets?
Non, ils sont très ouverts et ils sont très curieux, justement, parce que ces brimades pendant des années leur ont toujours donné envie d'aller vers l'étranger pour récupérer des informations et savoir ce qui se passait ailleurs. Donc depuis toujours, les Birmans sont très demandeurs d'interaction avec les touristes. Donc on a des contacts avec eux extrêmement facilement et ce sont des contacts souvent très très intéressants parce que parmi la population birmane, beaucoup de gens parlent un très bon anglais. Donc on arrive à vraiment avoir des échanges sur la politique, sur leur vie.
Mais écoute, justement, c'est cette politique birmane qui est encore très fébrile, très fragile. Le pays s'est ouvert, mais enfin, ça reste toujours... Aujourd'hui, quand on visite et quand on voyage du côté de la Birmanie, est-ce qu'on doit être accompagné? Est-ce qu'on peut partir un petit peu à l'aventure?
Aujourd'hui, on peut partir à l'aventure dans certains coins, mais pas partout. Effectivement, des zones du pays sont encore fermées, alors elles s'ouvrent. Quand on voyage en Birmanie, il faut être prêt à l'aléa. C'est-à-dire que certaines zones sont ouvertes, et puis pour une raison obscure, elles vont se fermer du jour au lendemain. Donc on part là-bas, on sait que les avions ne seront pas forcément à l'heure, mais on sait que si on change d'itinéraire, on visitera quelque chose de différent.
Il faut accepter la traverse.
Il faut accepter l'aléa, et, alors qu'il y a aussi de superbes hébergements. Donc on peut vraiment allier les deux. Et il faut être prêt à aller un peu à l'aventure pour passer au-delà de la Birmanie qu'on voit un petit peu trop traditionnellement, fréquentée par les touristes, parce que les gens aussi ont peur qu'il y ait trop de monde. Il y a du monde sur certains sites, c'est incontestable, mais on peut très facilement éviter ce monde.
Mais c'est paradoxe, en plus, c'est des pays qui ont besoin quand même du tourisme, parce que c'est comme cela aussi qu'ils vont s'ouvrir, et notamment peut-être faire bouger les lignes politiques, et en même temps, effectivement, quand le flux touristique commence à grimper, à gonfler, une certaine authenticité va se faire la mal, mais bon.
J'aimerais, il nous reste juste une toute petite minute, Joël Massé, parler d'un mot du Cambodge en famille, parce que c'est vrai que toutes ces destinations sont plus ou moins adaptées, d'ailleurs, au voyage en famille. Il y en a qui s'y prêtent peut-être plus, surtout quand on est avec des petits. Pourquoi le Cambodge en famille? On a beaucoup parlé du Vietnam pendant quelques années.
C'est vrai que le Cambodge est parfois oublié un peu par les gens qui voyagent en Asie. Pourquoi c'est une très belle destination en famille, en deux mots? Alors, je vais vous parler du site d'Angkor. Effectivement, Angkor, vous allez me dire, c'est pas très insolite pour le coup.
Et puis il y a du monde,
Il y a 3,5 millions de personnes qui voyagent chaque année. Alors, la méthode pour le faire en famille, c'est la chasse au trésor. Nous, on propose une chasse au trésor où, en fait, avec GPS, carte en main, vous allez avec vos bambins à partir de 5-6 ans découvrir les temples et leur proposer une chasse au trésor où ils vont avoir des énigmes à résoudre, des trésors à trouver pendant une demi-journée. On peut même le faire sur toute une journée. Et c'est un moyen très ludique, très sympa de le faire et de leur permettre finalement d'accéder à une culture. Et même s'ils ne mesurent pas toute la grandeur artistique d'Angkor Wat ou de la cité d'Angkor Thom, au moins, voilà, ils s'amusent et parents et enfants
ils profitent ensemble.
Ils sont encadrés, j'espère, parce que le gamin, il a bien gagné. Tu te récupères une belle statue, tu vas voir à la frontière. Non, je vous jure, on ne savait pas.
En tout cas, voilà, ça nous a donné un petit aperçu.
Merci.
Alors, bien
à vous
sûr,
tous, oui.
On aurait aussi pu parler du sultanat d'Omong, de la Laponie finlandaise avec tapis rouge. Nous aurions pu parler du Nicaragua ou du Malawi encore avec vous, Marie-Louise Moineau, ou du Costa Rica avec vous, Joël Massé. Mais le temps nous manque. Donc l'idée, c'est que vous alliez, messieurs, dames, chez eux directement et vous nous indiquez les voyages dont vous avez envie, Marie-Louise Moineau. C'est Tselana Travel. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Aimé Bonacker, c'est tapis rouge. Merci. Merci beaucoup à vous. Et Joël Massé, c'est Continents Insolites. Merci beaucoup à vous.
Merci.
On vous retrouve aussi, bien sûr, sur les sites internet, on n'a pas précisé, pour préparer ces vacances ou les prochaines.
Ou les suivantes.
Ou les suivantes. Je pense que nous, on va bientôt y aller. Hein. Allez, on reste encore un petit peu avec vous. Dans un instant, on vous parler, tiens, high-tech et puis quelque chose à noter sur votre agenda aussi. À tout de suite.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Boudelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et Goodlux, dans un instant, c'est la chronique high-tech. On va vous présenter des choses que vous n'avez jamais vues ailleurs. On va parler cheval. Je vous laisse patienter. En attendant, c'est le livre de la semaine. Et le livre de la semaine, c'est encore les éditions Feuilleton, Emmanuel. Mais parce qu'on en a déjà parlé. Ouais, on s'en lasse pas, parce que alors là, ils font très fort, ils font du coup sur coup. Ça, c'est une histoire assez remarquable. Olafur Eliasson, l'artiste danois mondialement connu, en ce moment, il est à Versailles. Vous avez vu ce qu'il a pu réaliser. Ah, il y a eu Anish Kapoor, et donc à Versailles, il est là, il s'est introduit dans le château, surtout dans le parc, et une cascade qui tient tout seul. C'est absolument remarquable ce qu'il fait. Comment il arrive à imaginer tout ça, Olafur Eliasson? Eh bien, il a un studio à Berlin. Et à Berlin, dans son studio, ils sont près de 90. C'est énorme. Des artisans, des artistes, des techniciens.
Des graphistes,
exactement. Des archivistes, des historiens d'art. Il y a tout ce genre de personnages. Et dans ce studio,
c'est un vrai laboratoire.
Qu'est-ce qu'ils font? Ils déjeunent ensemble tous les midis. C'est un rituel. Alors au départ, ils ont une cuisine sur place, chacun faisait la cuisine, l'équipe faisait la cuisine. Et petit à petit, forcément, tout cela prenant de l'ampleur, ils ont fait venir des chefs. Notamment la sœur d'Olafur Eliasson, qui cuisine très bien, mais aussi René Redzepi, ça vous dit quelque chose, ou tant d'autres. Et d'autant plus qu'ils ont un potager sur le toit du studio. Et tout ça amène à une certaine créativité. Et qu'est-ce qu'on raconte dans ce bouquin qui s'appelle Studio Olafur Eliasson en cuisine? Eh bien, on y raconte cette créativité autour du repas, autour de la cuisine. Donc c'est autant une histoire de ce studio d'Olafur Eliasson que l'on suit, autant un livre de recettes. Mais des recettes végétariennes.
Sans recettes végétariennes, mais c'est vrai que c'est un livre un petit peu schizophrénique, mais délicieusement schizophrénique, parce qu'on est à la fois dans le travail, la conception, les coulisses du travail d'Olafur Eliasson, mais aussi dans les coulisses de son studio et donc de sa cuisine. C'est assez étonnant. Alors, c'est richissime en termes de dessins, de crowbars, de refs qu'ils font pour
concevoir,
de recettes et de photos, bien évidemment. C'est un vrai livre de bibliophile. Hein.
C'est
dans
génial.
La bibliothèque idéale d'un gastronome ou d'un hédoniste, il faut ce bouquin-là.
Allez, juste quelques recettes. Les baozi raviolis chinois de Zhang Wei, la salade de lentilles beluga au fenouil, le risotto de cale noire aux champignons et romarin. Bon, il y a quand même un petit flan caramel. Vous voyez, on est assez pointu en fait, il faut le savoir. Mais voilà, on n'a jamais vu ça.
Non, c'est
un ovni et c'est aux
ça
éditions.
Ça aurait pu être ridicule, ça n'est pas du tout.
Non, c'est super bien fait. Édition Feuilleton, avant-propos d'Alice Wetters, et c'est le studio Olafur Eliasson en cuisine. Allez, tout ça, toute cette créativité nous amène à la chronique high-tech.
BFM Business, Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end.
Christopher Siminelli, bonjour.
Bonjour.
Notre spécialiste high-tech, on le retrouve aussi sur 01net. Alors, vous êtes venu avec des smartphones. Ouais, ok.
Ouais, on parlait de créativité, mais aussi de mariage. On va parler du mariage de Vertu, qui est la marque leader mondial sur les smartphones hors normes, et une autre marque hors normes de voiture, cette fois Bentley. Donc, les deux se sont mariés le temps de la création de ce téléphone que j'ai en main. Donc, c'est le Signature Touch édition Bentley. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce téléphone? Qu'est-ce qu'il a de spécifique à Bentley? Eh bien, figurez-vous que, et là c'est vraiment le top, on peut assortir son smartphone aux finitions de sa Bentley. On a 8 coloris de cuir différents, et on peut aussi choisir 16 options de surpiqûre. Vous voyez, comme le détail, on va très très loin, c'est vraiment du sur-mesure.
Et si on n'a pas la Bentley, on peut quand même toucher le téléphone ou pas?
On peut quand même s'offrir un petit bout de Bentley avec ce téléphone. Autre particularité de ce modèle Bentley, vous savez qu'avec tous les smartphones Vertu, on a un service concierge, donc disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. On l'appelle, on a un besoin, quel qu'il soit, il est disponible. Et pour le coup, avec Bentley, on a accès aussi à des services un peu dédiés, inédits en tout cas.
Double conciergerie.
Voilà, on a accès à toutes les actus de Bentley, mais on est aussi invité à tous les événements Bentley VIP exclusifs. Donc voilà, pour les amoureux de Bentley, c'est juste le téléphone idéal. Et on retrouve aussi ce fameux écran incassable. Je le rappelle ici, on l'avait testé au labo, on l'a attaqué au ciseau, on l'a attaqué à la fourchette, au tournevis. Il est incassable. Vraiment, c'est une vraie prouesse. Ce qui justifie en partie son prix, qui forcément est très élevé. 13 250 euros. Mais quand on a les moyens de s'acheter une Bentley,
évidemment,
13 250 euros. Bon,
et moi, voilà. Je trouve que voilà, c'est le salon du chic. Très bien.
Ça.
Il s'appelle comment le Vertu
Donc
Bentley,
c'est le Vertu Signature Touch Bentley. Voilà.
Bon, il a de la concurrence quand même sur le salon du chic.
Il a de la concurrence, justement. On va parler d'un autre smartphone qui est totalement hors norme. Vous pensez à avoir. Vous trouvez ça cher, et ben vous n'avez encore rien vu. C'est le Solarin de Sirin Labs qu'on va voir là à l'écran. Alors son truc à lui, c'est la sécurité. Il se présente comme le smartphone le plus sécurisé au monde. Il est équipé d'une touche à l'arrière, d'une touche qui permet de crypter en quelques secondes l'intégralité de son téléphone. Cette touche s'appelle Security Switch. Donc on parle encore de sécurité. À l'intérieur, on retrouve la solution Zimperium, qui est l'une des plus sophistiquées au monde et qui permet de vous prémunir contre les tentatives d'intrusion. Alors je l'ai dit, c'est un smartphone aussi hors norme et c'est un modèle parfait pour ceux qui ont quelque chose à cacher et qui sont prêts à payer très très cher pour que ça continue. C'est plutôt un joli smartphone, un peu épais, mais encore une fois, là, le vrai focus, c'est la sécurité. Ouais. Et ceux, encore une fois, qui sont prêts à mettre le prix, 17 000 $.
C'est une start-up israélo-britannique qui a
c'est ça.
Développé.
Ouais, c'est ça qui est derrière, ça a été lancé en grande pompe.
C'est deux grands pays du monde des agents secrets, hein.
C'est
Israël.
Ça, c'est ça.
Pour vous prendre pour James Bond.
Donc 17 000 $.
Ouais, très bien.
Très bien.
Ça nous va. Et puis, alors sinon, vous êtes mis à l'équitation ?
Presque. Voilà. Donc là, on n'est plus du tout dans le monde des smartphones. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est une vraie belle histoire. Alors, c'est une jeune cavalière passionnée de saut d'obstacles, mais pour qui ça ne s'est pas du tout bien passé, parce que sa jument, elle était très sensible au bruit extérieur, très sensible au stress. Alors, son frère, qui lui était à la fois musicien et ingénieur électronicien, a eu une sorte d'illumination quand il est tombé sur une étude qui a démontré un peu l'impact de la musique sur
le comportement
du cheval. Et donc, il s'est dit, bingo, de cette étude, je vais créer quelque chose. Et c'est le Horsecom. Donc, c'est
un casque. Une playlist pour les chevaux.
Voilà. Alors, c'est un casque, c'est un bonnet. Alors,
d'abord, je connais pas les termes spécifiques. Sur la tête du cheval.
Vous mettez ça sur la tête du cheval. Ça se fait beaucoup, notamment en compétition. Vous voyez, là, on y loge
ses oreilles.
Et donc, dans chacune de ces oreilles, on a un petit, des écouteurs reliés à ce boîtier qui est relié en Bluetooth au téléphone de la cavalière. La cavalière, elle, de son côté, a sa bombe. Et vous voyez, elle a une oreillette ici qui lui permet de communiquer avec le cheval. Donc, double objectif pour le Horsecom. Déjà, c'est de lui parler, de lui passer des consignes sans crier. Donc, de manière.
Parler vraiment à l'oreille des chevaux, c'est ce qu'il y a de dire.
Voilà, exactement. Et deuxièmement, de lui passer des musiques qui permettent d'adapter son rythme en fonction de la musique. Alors, quelques exemples, et ça, c'est prouvé, hein, tout ça, c'est vraiment prouvé.
Pas un gadget.
Bob Marley est idéal pour le pas, on parle pour le trot, on conseille plutôt Pharrell Williams avec Happy, vous savez, ce tube de l'année dernière.
Le galop,
Single Ladies de Beyoncé fonctionne très bien aussi. Alors, il y a un morceau à éviter à tout prix, c'est Gangnam Style de
Beyoncé. Normal.
Ça,
il
n'y
a pas que les chevaux qui sont
là. Effectivement. Alors, autre chose à noter, c'est un produit qui est presque entièrement fabriqué en France, en Normandie. C'est assez rare pour le...
Eh oui, pays de l'entraînement du cheval.
Exactement,
hein.
C'est assez rare pour le signaler, mais c'est fabriqué en France. Et donc, j'insiste là-dessus, c'est déjà commercialisé, parce que c'est utilisé par les plus grands champions
d'équitation. C'est une super belle histoire.
Vraiment, vous pouvez le voir, il y a plein de témoignages.
Étonnant.
Et alors, le prix. Donc, c'est commercialisé, c'est disponible sur le site, mais on le trouve aussi sur les grands événements équestres, 799 €. C'est pas donné, mais la formule qui marche bien, c'est 199 € à l'achat. Et vous avez un abonnement de 30 € environ par mois qui vous donne accès à des playlists optimisées pour les chevaux.
Ah, parce que j'imagine qu'ils n'entendent pas tout à fait de la même façon que nous. Quand
exactement.
C'est incroyable, ça.
L'étude démontrait justement
comment
qu'il y avait...
Comment ça s'appelle ?
Alors, ça s'appelle Horsecom.
Voilà, tout simplement pour connecter nos chevaux, les chevaux d'accord. Connectés. Alors ça, alors merci infiniment Christopher Siminelli. On va regarder les compétitions d'équitation autrement désormais. Allez, restez encore un peu avec nous, c'est l'agenda.
Goodelux Paris, l'édition du week-end, l'agenda.
Emmanuel, on n'a plus beaucoup de temps avec cette belle histoire. 30 secondes pour une...
Ça va très vite, on a parlé des vacances durant l'émission. Là, c'est juste le temps d'un week-end. Ce week-end, on partira le samedi 9 juillet du côté du Mans pour les 24 heures du Mans classique. Et à 14 heures, seront dispersées, comme à chaque édition tous les deux ans, des voitures d'exception par Arthur et Al Motorcars. La pièce maîtresse cette année, une Ferrari 250 GT. Berlinetta, mais attention, le châssis, c'est un châssis court de 61, ça va faire grimper et pas simplement les chevaux sous le capot. Encore une fois, une très belle vente, je rentre pas dans les détails. Vous pouvez aller sur le site d'Arcurial Motorcars, comme d'habitude, le travail photographique est superbe et on rentre vraiment dans ces mécaniques.
Et quand le luxe entre chez ma tante, ça donne le petit café éphémère au Crédit Municipal de Paris. Il avait déjà eu lieu, je vous le redis, c'est du 9 juin au 25 septembre, c'est 55 rue des Francs-Bourgeois, c'est un lieu délicieux à l'intérieur de ce bâtiment. Donc, le jardin municipal, ça s'appelle ce petit bar éphémère. C'est une bulle végétale en plein cœur de Paris. Vraiment, ils n'ont pas lésiné sur les plantes, les petites fleurs, etc. Après, de la nourriture assez
c'est
simple.
Ça, mais le lieu, jamais, voilà. On est dans les cours du Marais.
Exactement, pour redécouvrir le Marais autrement. Et c'est jusqu'au 25 septembre. Ça nous permet d'annoncer la semaine prochaine, justement, on vous proposera les mille et une manières de passer l'été à Paris. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dorénavant pour passer un bon été à Paris, même si vous ne partez pas. Merci beaucoup, Emmanuel. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Merci beaucoup à vous. Allez, restez avec nous dans quelques secondes. C'est le best-of de Good Luck Paris. À tout de suite.